Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Alors nous sommes le 17 mars, depuis le Galpon des Péniches est un théâtre qui se trouve en bordure de l'Arve, précisément aux deux routes des Péniches. Et nous y sommes pour une raison particulière, c'est que nous sommes reçus par la compagnie Sous Chiffre, dont les deux personnes, vous êtes les fondateurs et les deux personnes de la compagnie Sous Chiffre, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement.
Très bien. Alors eh bien nous allons parler Dorothée Thébert, si je prononce bien, et Filippo Filiger, si je prononce bien. Voilà, merci. Alors merci de me recevoir, juste avant une représentation, puisque ce soir, eh bien, vous serez de nouveau sur les planches à 18h ici au Galpon, pour la pièce Lampedusa, un rocher de survie. Alors on va commencer à en parler tout de suite, peut-être qu'on devrait dire quelques mots sur cette bande de terre, cette île qui se trouve, si j'ai bien compris, entre Malte et la Tunisie. Donc je crois que c'est le point le plus méridional d'Italie, donc c'est sous juridiction italienne.
Exactement.
Et comme vous le dites, c'est un rocher, c'est un point, pourrait-on dire, de passage.
Alors ça a été un lieu de passage et en fait nous donc on est allé sur l'île de Lampedusa suite à un article qu'on a lu dans un magazine féministe qui s'appelle Cosette et en 2015 et on y a découvert un article qui parlait de Porto M, un musée M comme migration, donc un musée qui s'est constitué là-bas avec des objets qui ont été récoltés dans la décharge des bateaux qui ont appartenu aux gens qui ont fait le voyage de la Méditerranée. Et puis ça nous semblait intéressant de parler de cette crise qui n'est pas une crise en fait, qui est une situation qui était au plus haut en 2015, et de parler de cet événement à travers des objets. Et donc on est allé là-bas, et là-bas on s'est rendu compte que cette île était en fait plus qu'un lieu de passage, était une frontière, et était la frontière entre deux continents, et voilà, c'est ça qui nous a beaucoup intéressés.
Alors, on peut d'ores et déjà dire que la pièce a cours ici au Théâtre du Galpon depuis déjà le 14, et ce sera jusqu'au 24, si je ne me trompe pas, jusqu'au 24 mars, tous les jours à 20h le soir, le dimanche à 18h. On l'a dit, c'est deux routes des Péniches, le tram 14 nous mène tout près, si jamais. Comment est-ce que... Alors, peut-être que continuons à parler un petit peu de Lampedusa avant de parler vraiment de la pièce. Vous vous êtes donc rendu là-bas. Vous avez rencontré ces personnes et effectivement, on les retrouve sur le flyer. Les remerciements commencent immédiatement par des remerciements suivants. À Lampedusa, nos remerciements vont tout particulièrement à Nino Taranto, au collectif Ascavusa, qui veut dire les pieds nus, c'est ça? D'accord.
Oui, exactement.
À Giacomo Sferlazzo, à Vito Fiorino, Paola La Rosa, Don Carmelo et Don Vito. Tout ça, ce sont des personnes que vous avez rencontrées.
Oui, qu'on a rencontrées et on remercie parce que notre pièce de théâtre est la volonté de mettre en scène une enquête. Donc, les personnes qui sont remerciées, c'est les personnes qu'on a interviewées, qui nous ont donné des références, de livres à lire, de chansons à écouter, de films à voir. Donc c'est les personnes qui nous ont nourris et qui nous ont permis de construire un discours qui est celui qui se déploie tout au long de la pièce.
D'accord. Comment est-ce qu'on vit cette tragédie, cette situation qui est une fabrication, on le sait bien, hein, c'est ce problème de flux. Comment est-ce que l'on vit cela lorsque l'on est habitante ou habitant de Lampedusa et qu'on côtoie des plages d'eau turquoise et en même temps dont on sait que voilà, les situations sont à ce point terribles?
Alors, ce qui nous a beaucoup frappé en fait à Lampedusa, c'est que si l'on veut ne rien voir, on peut ne rien voir. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en fait, toute la gestion de la migration, elle est faite de telle manière que les touristes soient
écartés, ou en tout cas,
enfin,
voilà,
ouais. Qu'ils ne puissent ne pas voir. Et puis, par exemple, le hotspot, qui est le lieu de rétention aujourd'hui, est au fond d'une vallée Il est déposé dans un trou, en fait. Donc, si on regarde l'horizon, on ne voit rien. Et c'est assez symptomatique, en fait, de la gestion de cette... De la crise migratoire là-bas, c'est vraiment que le touriste peut être
complètement protégé
par ça. Et ça, je pense que c'est une des premières choses qui nous a vraiment frappé quand on y est allé, parce que on était nourris, nous, d'images et de discours, en fait, qui nous donnaient l'image d'une île où les habitants accueillaient sans arrêt les réfugiés qui débarquaient, où il y avait une grande proximité de ces deux populations, entre guillemets. Et en fait, non. En fait, non, on peut ne rien voir là-bas.
Alors que c'est pas grand, c'est 20 km², 6-7 000 habitants pendant l'année, avec des pics à plus de 100 000 quand c'est la saison estivale. Donc c'est vraiment un lieu de villégiature. Et effectivement, comme vous le dites, alors du coup, c'est choquant, j'imagine, de voir cette absence d'empathie et le fait de pouvoir s'amuser extrêmement librement en ignorant complètement des situations de drame.
Mais c'est aussi la construction d'un aveuglement et la construction d'un oubli. Et c'est ça qu'on a paradoxalement vu la première fois qu'on a été sur l'île. Et on s'est tout de suite interrogé de comment on construit cet aveuglement. Et c'est ce que la pièce essaye de raconter. Mmh. Elle le raconte en essayant de sonder plusieurs couches, qui sont des couches historiques, qui vont dans le passé, des couches politiques. Et donc on essaie de faire un tuilage comme ça de différents récits pour raconter, voilà, l'histoire de Lampedusa, qui est à la frontière de l'Europe, mais depuis laquelle on essaie de voir aussi l'intérieur de l'Europe. Parce que c'est depuis Lampedusa, en fait, qu'on a réalisé que... Il y a une déshumanisation qui est aussi un thème européen. Et donc c'est ça qu'on a essayé de fouiller. En fait.
D'accord. Alors on va venir à la pièce. Mais j'aurais voulu encore vous questionner sur ce collectif Askavouza, donc les pieds nus. De quelle manière est-ce que vous les avez rencontrés et comment s'est-elle passée cette rencontre? Et quel est leur travail?
Alors en fait, donc on a pris contact avec eux après avoir lu l'article dans Cosette. Et puis, on a eu une première très longue discussion avec eux pour qu'ils puissent connaître un peu nos motivations, qu'est-ce qu'on voulait faire avec les objets. Parce que pour nous, c'était très clair qu'on voulait utiliser les objets comme déclencheurs de récits. Mais après, de quelle façon? On était au tout début du projet, donc on ne savait pas exactement. Donc on a beaucoup discuté avec eux. Et puis ensuite, ils ont accepté de nous rencontrer, en fait. Donc on est allé en Lampedusa une première fois en 2016. Et puis là, on a eu de grandes discussions avec eux qui nous ont amené aussi à des rapports plus amicaux. Mmh. Et puis leur point de vue sur l'île était très très intéressant pour nous, parce qu'il nous a vraiment éclairé aussi sur une situation qui est au-delà de la situation proprement dite, à proprement parler de l'île.
Oui, eux-mêmes ont recensé ces objets au musée
Porto M
à Lampedusa. Mm-hmm. Comment ont-ils réagi au moment où ils comprennent votre projet de mettre ça en scène? Parce que ça peut être des réactions diverses et variées. Ils auraient pu dire, tiens, mais il y a peut-être une impudeur, pourquoi pas? Ou alors non, au contraire, magnifique, enfin nous allons pouvoir révéler ce travail de fourmi de l'ombre que l'on produit. Parce que finalement, ce musée au fond de Lampedusa, j'imagine qu'il n'y a pas non plus des quantités de personnes qui le connaissent.
Alors, il est connu par un certain tourisme responsable qui vient sur l'île, qui cherche des traces du passé qu'il a pu voir dans les médias, les journaux, internet, la télévision, etc. Donc il y a des gens qui sont intéressés et qui vont visiter Porto M, mais plus précisément par rapport à la question, au premier abord, il y avait une méfiance de leur part. Une méfiance parce que ils voulaient comprendre dans quel type de discours ces objets allaient être utilisés. Mmh. Aussi parce que dans le passé, ces objets ont été, entre guillemets, détournés, ont été pris sans être rendus. Voilà, il y a une sorte d'expropriation sans dire que ces objets leur appartiennent, dans l'ambiguïté de tout cela. Et donc, quelque part, on a dû gagner leur confiance en construisant, en fait, le projet avec eux. C'est-à-dire que, dans la pièce aussi, on essaye de ne pas avoir un jugement sur ce qui se passe, mais plutôt à essayer d'avoir un récit, en fait. Et donc, on a gagné leur confiance et ensuite ils nous ont donné accès à quelques objets, mais aussi ils nous ont poussé à récupérer nous-mêmes nos objets qui étaient les déclencheurs de nos histoires. Mais aussi là-bas, ils nous ont donné accès à d'autres personnes pour lesquelles aujourd'hui nous sommes les passeurs de leur récit et de leur vécu.
Et c'est-à-dire que certains de ces objets que vous avez pu collecter sont présents ici et sont inclus dans la scénographie.
Oui, tout à fait. Donc dans la pièce, on utilise une cassette, par exemple. Donc elle vient du collectif Askaouza du musée Porto M. On a d'ailleurs numérisé ces cassettes. Donc à un moment, pendant la pièce, on entend la musique qui... très fantomatique, qui vient de la numérisation de ces bandes qui ont été trouvées sur des bateaux, donc qui sont imprégnées de sel de mer et du passage de l'eau. Mais on est aussi allé dans une décharge qui est donc nous-mêmes, qui est sur à l'extrême nord de l'île, juste à côté d'un radar de l'armée, et donc dans les et dans cette décharge, dans ces bateaux, on a récolté nous-mêmes des objets. Donc par exemple, un pantalon, une sorte d'urne en plastique qui contient des épices et un bâton.
D'accord.
Mais il y a aussi une multitude d'autres objets qui racontent la complexité de l'île. Disons, la pièce n'est pas faite que d'objets qui ont appartenu aux personnes qui sont arrivées à Lampedusa, mais il y a aussi beaucoup d'autres objets qui racontent toute la complexité de l'île.
Oui, effectivement. Comment vous avez choisi, filtré les objets trouvés et les objets que vous apportez, vous, par la suite? Parce que j'imagine que ça doit être extrêmement dur de se dire, dans un récit, dans ce que l'on veut donner comme ton à ce récit-là, dans ce que, dont on sait que ça pourrait faire réagir des personnes, eh bien, on va plutôt prendre ça. Est-ce que ça, c'est une question qui s'est posée déjà? Peut-être pas.
Oui, elle s'est posée, mais on voulait que dans la pièce, les objets soient déclencheurs d'histoire. Donc nous, on était habités par des histoires qui venaient de nos lectures, par nos entretiens. Et donc il y avait certains objets qui étaient évidents, donc qui étaient clairement le déclencheur d'une histoire. Et il y en a d'autres qui étaient pour nous des mystères que notre enquête devait dévoiler. Et donc ça, c'était un peu notre rapport à ces objets.
Est-ce que ça a été un crève-cœur, des fois, de se priver de certains objets au détriment d'autres, en disant, il faut qu'on choisisse, il faut qu'on tranche à un moment donné? Ou c'est allé dans votre discussion entre vous?
Non, je pense que c'était assez clair, parce que les choses se sont vraiment construites de manière très organique, en faisant des allers-retours entre les objets et les histoires qu'on avait besoin et envie de raconter.
Le collectif a-t-il vu, entendu la pièce? Ou vont-ils venir peut-être? Ou comment ça se passe?
Vous allez... Non, on a promis d'envoyer une captation sous-titrée en italien aux gens du collectif, mais aussi aux autres personnes qui ont participé à la pièce. Et donc voilà, il y aura une captation et puis un travail de sous-titrage en italien pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on raconte et comment aussi on a utilisé leur récit et les entretiens qu'on a fait avec eux.
La compagnie Sous Chiffres pourrait-elle se rendre, pourquoi pas un jour, à Lampedusa pour...
Mais oui,
ça serait magnifique.
Mais d'autant plus qu'un des nouveaux projets du collectif à Askaouza est de construire un théâtre dans l'espace Porto M. Donc, ils nous attendent.
Ils nous attendent, très bien. Lampedusa, un rocher de survie. Donc, une pièce que l'on peut voir ici au Galpon depuis déjà le 14 jusqu'au dimanche 24 mars. Donc, on l'a dit, en semaine, c'est 20h. Le dimanche à 18h, le Galpon s'institue donc aux deux routes des péniches. Le tram le plus proche, c'est le 14, hein, par exemple. Alors, allons-y, plongeons dans cette pièce. J'aurais envie de faire peut-être la lecture déjà de la création théâtrale, donc la conception, l'écriture, mise en scène et jeu par vous deux, donc la compagnie sous chiffre, Dorothée Thébert et Philippe Offilliger, un œil extérieur, hein, Anne Schlomit Deona, j'espère que je prononce bien, la scénographie, Daniel Zembarbide, c'est ça?
Zembarbide.
Zembarbide, création lumière, Jonas Buller, chanson en dialecte sicilien, Giacomo Sferlazzo, le son, David Kretonik, je suis désolé, je m'excuse pour... Costume Aline Courvoisier, la communication Jeanne Quattropani et la compagnie sous chiffre. Voilà, ça c'est pour commencer. Alors, cette pièce, voilà, qu'est-ce qui vous a amené à la proposer ici au Galpon? Vous avez dit le Galpon, c'est un bon endroit pour ça, par exemple?
Oui.
Oui, c'est le... Pour la Suisse, c'est le dernier théâtre avant la Méditerranée, parce qu'on est sur le Rhône. Et donc, c'est une évidence géographique. Mais je dis ça parce que c'est une phrase de Nathalie Takela, qui est la directrice, la co-directrice du théâtre. Et donc, ce qui raconte cette phrase, c'est aussi un engagement politique, c'est aussi un engagement pédagogique, parce que cette phrase, elle l'a utilisée dans le cadre d'un atelier avec des enfants. Donc, on est très content d'être ici, parce que on se sent soutenu, et on se sent aussi soutenu aussi pour l'aspect pédagogique qu'on a envie d'amener avec la pièce dans les écoles.
Absolument.
Et puis c'est aussi un théâtre qui est né sur la scène alternative Artemis et qui a été transporté de toutes pièces sur ce bord de l'Arve. Et pour nous, ça fait vraiment sens avec la pièce, puisqu'on travaille beaucoup sur l'idée de mémoire et de garder des traces, et qu'il est très important de transmettre les histoires, et je pense que ce théâtre, il est vraiment le symbole de ça aussi.
Absolument, la péniche également, enfin toutes ces choses-là, effectivement, l'arbre qui s'écoule, hein, c'est tout ça. Très bien, je perds le fil, j'aurais dû rester concentré, mais c'est vrai que ça m'emporte également, et c'est ce qu'on demande également au théâtre de faire. Le passage de l'objet au discours, est-ce que ça a été, comment dire, la maïeutique, un accouchement, ça a été douloureux, il a fallu prendre du temps, comment ça s'est passé?
Il y a eu un premier temps de mise à plat, je dirais, de tous les textes qu'on avait, c'est-à-dire de tous les entretiens, de tous les passages de livres, tous les extraits d'articles, de films qui nous intéressaient. Donc il y avait comme ça la création d'un corpus. Et ensuite, on a organisé ce corpus dans un premier temps pour créer un discours, et dans un deuxième temps pour mettre ce discours en scène. Et ce qu'on a essayé de faire avec les objets, c'était d'éviter le rapport à la didascalie. C'est-à-dire qu'on voulait en fait que les objets puissent créer des sortes de maquettes qui puissent construire un nouveau discours dans l'articulation entre l'objet et ce qui est dit par la parole. Et donc voilà, en suivant la pièce, on espère que le public soit emporté dans une suite d'images qui sont une suite de constructions, en fait. Voilà.
D'accord. Ces objets qui sont présents ici, donc on fait cet entretien dans le théâtre même du Galpon. S'il fallait en citer un ou deux pour, disons, expliquer d'une certaine manière, illustrer ce que les personnes vont découvrir ici, lesquels choisiriez-vous? Peut-être aucun, hein. Peut-être que l'idée, c'est justement que les gens les découvrent complètement. Ou est-ce qu'il y en aurait-il un comme ça qui, tout d'un coup, surgirait dans vos... D'accord, je vois que vous pointez. Alors, très bien. Il y en a donc des objets un petit peu comme ça qui...
Lequel?
Alors, pour moi, il y a la pierre. La pierre qui nous permet de parler en fait de l'antiquité de Lampedusa, qui à l'époque était un lieu de passage et un lieu en fait où les chrétiens et les musulmans se retrouvaient par défaut, parce que au milieu de la Méditerranée, les bateaux pouvaient accoster en fait à Lampedusa, qui était un port de repos, si on veut. Et puis, donc cette pierre, elle nous permet de parler de l'Antiquité, mais elle nous permet aussi de parler aujourd'hui du territoire tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un territoire désertique, parce que tous les arbres de l'île ont été rasés pour faire du charbon au XIXe siècle, et il n'y a rien qui a repoussé. Et ça nous permet aussi, voilà, de parler de cette pierre. Elle nous permet de parler de la frontière aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a utilisé certains des objets de façon polysémique, en fait, et qui nous permettent de passer d'une histoire à l'autre, et tout en étant voilà, des vecteurs, en fait.
D'accord. Philippot, toi, tu en as.
Moi, je voulais parler du buste de Gaddafi, mais peut-être c'est mieux que le public vienne le découvrir ici.
D'accord. Bon, là, déjà, il saura qu'il y a un buste de Gaddafi. Pourquoi est-il là? Eh bien, bon, il y a déjà la proximité géographique d'une certaine manière, puisqu'on a cette, quasiment un vis-à-vis.
Exactement.
Mais vous, certainement, vous en direz plus. Alors, il y a déjà eu quelques représentations. Comment se passent-elles, ces représentations? Quelles sont les, alors, c'est une question en trois volets. Comment est-ce qu'elles se passent? Est-ce que les gens adhèrent, viennent? Et quelles en sont les réactions?
Alors, bon, c'est difficile de faire des généralités, mais en tout cas, les choses qu'on reçoit et qui sont très belles, c'est que les gens apprécient beaucoup le fait qu'ils apprennent des choses, déjà. C'est qu'ils apprennent des choses, mais tout en faisant partie de notre expérience. Donc, dans la pièce, on essaye vraiment de rendre compte de notre expérience là-bas, et on essaye de ne pas tenir des discours qui seraient des éléments simplificateurs, mais de rendre vraiment compte de la complexité de quelque chose. Et ça, je pense que ça passe, disons, ces intentions-là passent auprès des spectateurs. Et puis, on essaye aussi d'avoir un rapport simple dans la parole. Une certaine proximité, et puis ça, il y a des gens qui ont été très sensibles à ça, en tout cas.
D'accord.
Et autrement, à la sortie, voilà, nous on est toujours là pour discuter, pour donner une sorte de prolongement à la pièce, à répondre aux questions, à donner des compléments d'informations s'ils sont nécessaires, démarrer des débats. Donc là aussi, c'est une pièce qui fait continuer à travailler les spectateurs, même après la représentation.
Est-ce que depuis que vous avez débuté ces représentations, y a-t-il des petites choses qui ont changé, que vous avez, voilà, peut-être
le monde n'a pas encore changé, mais ça fait que 3 jours qu'on joue.
très bien. Non, je me disais peut-être que voilà, tout d'un coup, on se dit tiens, il a manqué quelque chose après une première ou une deuxième, dans quand on ressent les retours et les réactions du public. Alors ces réactions, justement, comment vous les avez perçues jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a eu... Alors on a vu un message fantastique sur le Livre d'Or, un très très beau message, où la personne, où les personnes parlent d'une douceur du propos pour des histoires qui pourtant sont d'une extrême dureté. Et déjà ça, c'est un défi que vous avez rempli. J'imagine que ça vous fait très plaisir.
Mais c'est notre défi d'essayer de ramener de l'humanité dans les récits de migration. Et c'est ça qu'on relève de notre enquête, c'est la disparition de certaines valeurs humanistes. Donc on a un côté un peu réactionnaire, mais qu'on a envie de défendre.
Réactionnaire, d'accord.
Non, mais aujourd'hui, ça pourrait paraître cela.
Alors on arrive doucement à la fin de l'entretien, parce que effectivement, je sais que vous avez beaucoup de travail derrière. Moi, j'ai voulu, là, pour ouvrir un petit peu, vous questionner sur, selon vous, le théâtre a-t-il son rôle là-dedans? Ou quel est le rôle que le théâtre peut envisager là-dedans, dans cette position entre de médiateur, finalement, également, de lanceur d'alerte également? Quelle est la position du théâtre vis-à-vis d'un public qui peut être à connaissance ou pas, et de situations que l'on peut observer empiriquement?
Je pense que le théâtre, il a comme devoir, en tout cas pour nous, là, pour cette pièce-là, de transmettre des histoires. Donc d'aller les récolter et puis de les faire passer. On se sent très proche du rôle d'un passeur, en fait, d'histoires qui sont peu entendues, en fait, qui vont à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les médias. Donc le travail de terrain, il a ça de très riche, c'est qu'on peut former son regard. C'est-à-dire qu'on va en découvrir plus que ce qu'on apprend depuis notre Suisse entourée de nos montagnes. Absolument. Donc ça c'est une première chose. Et puis ensuite, ici, voilà, on va accueillir beaucoup de classes à partir du cycle et au secondaire 2, donc des gens plus grands. Et je pense que là aussi, c'est un travail qui nous intéresse beaucoup parce que c'est... Le théâtre devient aussi là déclencheur de discussion. C'est pas seulement l'objet qui est déclencheur de discussion, mais le théâtre en lui-même aussi. Et puis tout ce partage de connaissances et puis ce partage d'expériences que le théâtre permet, on peut aussi l'amener auprès des jeunes. Et puis je pense vraiment toute la pièce se pose beaucoup la question de la mémoire, pose la question de l'importance de la mémoire, de ne pas oublier les choses. Et puis je pense que ce travail de transmission auprès des jeunes, il est vraiment important.
Absolument.
Et non, peut-être aussi parler d'un problème qu'on ressent à l'altérité. On a beaucoup de problèmes à reconnaître l'autre et notre pièce. Voulait aussi, dans sa forme, dans la douceur qui a été décrite tout à l'heure, donner des formes qui puissent rappeler ce plaisir dans la reconnaissance de l'altérité et qu'est-ce qui est le besoin pour les civilisations actuelles de reconnaître l'autre.
Absolument, je crois que c'est des très beaux mots de la fin. Au Galpon jusqu'au 24 mars, on se mène à 20h le dimanche à 18h. Comment ça se passe? Les gens peuvent réserver par téléphone et par mail, je crois sur le site de galpon.ch.
Exactement.
Il y a encore un petit peu de place, les gens doivent se précipiter ou il y a
ça
encore...
Ça dépend des jours, mais il y a encore de la place, bien sûr.
D'accord. Merci beaucoup Dorothée Thébert et Philippe Ophiliger, la compagnie Sous Chiffre. On n'a pas parlé de la compagnie, voudriez-vous dire quand même quelques mots de cette compagnie?
En deux mots, c'est une compagnie qui fait un travail depuis une dizaine d'années qui est beaucoup basé sur des entretiens, sur des histoires qui sont transposées dans des histoires vécues qui sont transposées dans le domaine du théâtre. Et puis
et qui peut-être se pose beaucoup la question du vivre ensemble, parce que c'est quand même pas facile.
D'accord. Certainement, nous aurons l'occasion de revenir et puis de reparler plus précisément et plus à fond de cette compagnie. Juste pour en terminer là, alors le 24, ça se termine. Et ensuite, y a-t-il quelque chose déjà qui est dans vos esprits, des idées qui vous habitent, des aspirations pour la pièce Lampedusa, un rocher de survie?
Alors, je pense, plus on joue la pièce, là, plus on est en train de se dire que quelque chose n'est pas fini avec Lampedusa. On ne sait pas encore exactement quelle forme ça prendra, mais en tout cas, ici, ce n'est pas un aboutissement de 2 ans de travail. C'est une étape, je pense, vers
quelque chose. Vers quelque chose.
Non, puis au-delà du désir qu'on a toujours de continuer à jouer une pièce qu'on crée, chose qu'on a envie de faire, on aimerait aussi poursuivre le travail dans les classes et continuer le travail de médiation à partir de notre pièce de théâtre.
Voilà, c'est aussi à ça que je pensais. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà lancer un appel si des personnes qui nous écoutent, des profs, des éducatrices, est-ce que dans ces lieux-là, vous iriez proposer des représentations?
Oui, bien sûr, on est en lien avec le site École et Culture, qui met en lien justement des événements culturels et les profs. Donc ça, on peut se renseigner sur écoleetculture.ch, je crois. Et puis sinon, oui, alors tout à fait, on est là pour recevoir des classes et aller ensuite dans les classes pour discuter avec les étudiants.
Très bien, très bien. Est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? Très bien.
Très bien.
Philippe, merci beaucoup. Dorothée, merci beaucoup.
Merci
et puis bon courage pour les représentations à venir.
Merci beaucoup.
www.libradio.org, la radio qui vient à ta rencontre.